Bonsoir, mon nom est Catherine Doré et je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Voix de la librairie, enregistrée à la librairie Saint-Jean-Baptiste à Québec et diffusée sur Radio Fiat Lux. Ce soir, on va consacrer l'heure qui vient à parler de la science, mais surtout peut-être de ce qui fait obstacle à l'épanouissement de la science aujourd'hui. On va commencer par relire l'extrait d'un livre qui a été publié en 1690. Il y a si longtemps que l'abus du langage et certaines façons de parler vagues et de nul sens passent pour des mystères de science et que de grands mots, en des termes mal appliqués, qui signifient fort peu de choses ou qui ne signifient absolument rien, se sont acquis par prescription le droit de passer faussement pour le savoir le plus profond et le plus abstru, qu'il ne sera pas facile de persuader à ceux qui parlent ce langage ou qui l'entendent parler que ce n'est dans le fond autre chose qu'un moyen de cacher son ignorance et d'arrêter le progrès de la vraie connaissance. Ainsi, je m'imagine que ce sera rendre service à l'entendement humain de faire quelques brèches à ce sanctuaire d'ignorance et de vanité. Et c'était tiré de la préface de l'essai sur l'entendement humain par John Locke. Et ça a été écrit, comme j'ai dit tout à l'heure, en 1690. Et quand on entend le début de la citation, moi, ça me fait penser à ce qu'on appelle aujourd'hui la langue de bois. La langue de bois, ce sont ces phrases truffées de mots, vidées de leur sens pour mieux leur en prêter d'autres, et ainsi nous faire croire que, par exemple, les gaz de schiste sont des ressources renouvelables, que l'homéopathie repose sur des bases scientifiques, ou, pour prendre un exemple plus près de nous, qu'une grève, ben, c'est un boycott. La science, celle qui recherche la vérité, celle qui désire véritablement comprendre le monde, a toujours eu de nombreux ennemis. Le pouvoir des uns, la bêtise des autres, l'intérêt souvent mal calculé en font partie. À l'époque de John Locke, ceux qui faisaient obstacle se trouvaient principalement dans le camp religieux. C'est sans doute pourquoi, durant des siècles, nous avons opposé science et religion dans leur manière d'expliquer et de comprendre le monde. Il semble qu'aujourd'hui, les ennemis d'hier soient toujours là, mais qu'ils se drapent sous de nouveaux oripeaux. Donc, ce soir, en compagnie de Martin et de Simon, on va parler de deux ennemis qui sont à la fois très anciens et très contemporains, soit la politique et l'ignorance. Et possiblement que David, si le cœur lui en dit, va venir nous faire des citations qu'il va avoir glanées dans les livres qui garnissent les murs de sa librairie. Alors, on va commencer par faire une pause musicale. On va écouter la pièce « Yeah, hey » de Vampire Weekend et on revient avec Simon et Martin. À tout de suite.
Sweet thing, Zion doesn't love you. Babylon don't love you. But you love everything. Oh, you saint, America don't love you. So I. Spider.
C'était la pièce Yahé du groupe Vampire Weekend. Et là, on a David qui va venir nous faire une citation. On t'écoute, David.
En fait, c'est plus une imitation. Je me suis découvert un nouveau talent. Alors, je vais vous imiter le président, en fait l'ex-président, pardon, de Sarkozy. Et comme je suis spécialisé dans les trucs qui ne sont plus actuels, eh bien, ça va en être encore une. Je sais pas. Alors, ouais, c'est ça.
Oui, on t'écoute.
Alors, l'année... Attends, je vais prendre le ton de Sarkozy, vu que c'est une imitation. L'année 2009 sera peut-être la naissance d'un nouveau Sarkozy bégaye pas, sauf quand il est sous. Pardon. L'année 2009 sera peut-être la naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Et c'était le 16 janvier, une allocution qu'il a fait devant le corps diplomatique. Voilà.
Merci beaucoup, David. Donc, une citation de Sarkozy. Et en attendant le nouvel ordre mondial qu'on attend toujours, on revient avec Martin et Simon et on parle de science. On va parler de l'obstacle de la politique face à l'émancipation de la science. Simon, tu es astrophysicien.
C'est exact, Catherine.
Tu étudies à l'Université Laval?
Oui.
Et est-ce que toi, tu as constaté dans ton travail et dans tes recherches un changement depuis quelques années dans les budgets qui sont accordés ou dans l'image de la science?
Bien, un changement, ça, c'est indiscutable qu'il y en a un. Là. Les budgets sont...
Coupés.
Oui, sont coupés. Donc, point de vue chef, c'est indiscutable qu'il y a une coupure. D'un point de vue idéologique, c'est autre chose. C'est un peu plus pernicieux. Depuis, en fait, pour prendre une situation qui m'est vraiment familière, en fait, en astrophysique, au Québec, en fait, on a un centre de recherche qui s'appelle le CRAC. Oui, le CRAC pour Centre de recherche en astrophysique du Québec. Et puis, ce centre de recherche-là a un observatoire qui, lui, est propre, qui se situe au Mont Mégantic, donc en Estrie, peut-être à une demi-heure de route de Sherbrooke, entre Sherbrooke et le Maine, en fait, donc dans l'extrême sud québécois. Mm-hmm. Et puis, cet observatoire-là roule depuis 30 ans cette année, en fait, donc c'est le 30e anniversaire. Non, l'année passée, c'était le 30e, donc 31 ans. Et puis, cet observatoire-là, évidemment, roule sur des subventions. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'argent qui rentre au point de vue privé dans cet observatoire-là. Donc, pour que l'observatoire puisse continuer de fonctionner, c'est un observatoire qui est particulièrement important, par exemple, pour moi, qui suis un étudiant gradué, qui fait des recherches, qui peut avoir accès facilement à ce télescope-là, étant donné que c'est à 2 heures de route. On loue une voiture, on s'en va là, on observe pendant une semaine. Puis, tu sais, c'est facile, c'est peu coûteux, en fait, aussi. Eh bien, par exemple, le gouvernement conservateur, en 2008, avec l'aide d'un organisme qui s'appelle le CRSNG, qui est le gros organisme subventionneur au Canada, point de vue de sciences, sciences naturelles. Il y a la contrepartie aussi, je ne m'en rappelle pas exactement du nom, mais pour les sciences humaines, tout ça, les lettres en général, sciences humaines, lettres. Donc, puis il y en a un aussi pour les sciences médicales, sciences de la santé. Donc, cet organisme-là a décidé de refuser la subvention qu'il donnait depuis 30 ans à l'Observatoire, sous prétexte que l'Observatoire ou le centre de recherche en général était pas avait pas de renommée internationale.
Alors, okay, c'est ça la raison qu'ils ont donnée?
Oui, la grosse raison. Sauf qu'au même moment, il y avait un autre fonds de recherche qui s'appelle le Fonds pour l'innovation. Je ne me rappelle pas exactement de l'acronyme, peu importe, c'est ça que ça veut dire, Fonds de l'innovation, qui est des subventions plus matérielles, qui donnent de l'argent pour des rénovations d'infrastructures, tout ça. Et puis, cet organisme-là donnait 12 millions au centre de recherche à l'Observatoire du Mont-Mégantic pour rénover ses infrastructures.
Okay.
Mais en même temps, le CRSNG coupait la subvention pour la maintenance de l'Observatoire. Donc, en partant, on voit qu'il y a probablement un organisme qui est un peu plus chapeauté par la politique directement plutôt qu'un autre qui est un peu plus indépendante. Donc, ces deux organismes-là ne sont pas parlés. C'est un peu symptomatique, en fait, de l'état des sciences ou de la gérance politique de la science présentement au Canada et au Québec en particulier, dans le cas qui me concerne, moi.
Est-ce que tu irais jusqu'à dire que la politique influence directement les subventions qui sont accordées parce que c'est supposé être neutre, là, en fait? La politique n'a pas à se mêler de ce qui est subventionné ou pas en recherche.
Oui, en théorie, la science devrait normalement, en tout cas, c'est un des grands principes du fonctionnement universitaire en général, c'est que la science devrait, ou en fait, le mode de recherche, le fonctionnement de la recherche devrait être indépendant du gouvernement en place ou même de la gérance de l'institution telle quelle qu'est l'université. Donc, il ne devrait pas avoir de choix qui sont, éditoriales ou en tout cas, qui ont une idéologie derrière.
Moi, j'aurais une question par rapport à ça. Est-ce que les politiques font une distinction entre la recherche fondamentale et la technologie, par exemple? Ce qui peut être payant, autrement dit. Est-ce qu'il y a-t-il une différence pour eux autres ou c'est tout dans le même bateau?
En fait, c'est le nœud du problème, c'est qu'ils font une extrême différence entre les deux, présentement. Et puis, ben en fait, le nœud du problème, c'est que en fait, ça a été officialisé il y a un mois à peu près par le gouvernement conservateur. Il y a eu un discours, là, je pense que c'est une motion faite par l'Assemblée, ou pas l'Assemblée, mais le Parlement, ou peu importe, là, qui disait que maintenant, le Canada allait marquer ses subventions, donc son financement allait aller plutôt vers les aides à l'industrie plutôt que la science en général comme c'était avant.
Tu sembles me dire que les coupures visent un certain type de recherche qui toucherait les sciences fondamentales. C'est quoi la science fondamentale, la recherche fondamentale?
Oui, bien en fait, le gros des coupures, en tout cas, où, peut-être que je suis biaisé, mais je pense que le gros des coupures vise surtout la science qui ne fait pas beaucoup d'argent, donc souvent c'est la science fondamentale.
Okay.
Pas beaucoup d'argent, je m'explique, là, pas beaucoup d'argent à court terme et non pas à moyen ou à long terme. Par science fondamentale, on entend souvent, en fait, on n'entend pas souvent, mais tout le temps, la science qui, par exemple, s'attache plus à la question comment ça marche que qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, par exemple, dans la science naturelle, on penserait plutôt à comment expliquer la nature ou qu'est-ce qu'on voit quand on observe la nature, plutôt que comment faire avec ce qu'on voit pour pouvoir faire des objets ou des trucs en fait, qu'on pourrait utiliser pour rendre notre vie meilleure.
Mm-hmm.
C'est un peu la même chose, par exemple, en sciences médicales ou en sciences humaines. Donc, comment l'humain fonctionne, comment l'humain interagit avec d'autres humains, plutôt que comment on pourrait faire pour que l'humain vive mieux avec l'humain.
Oui. Donc, si je comprends bien, si une science n'apporte pas de l'argent, c'est plus intéressant.
Non, mais
on le coupe.
Toute forme de science, ou à peu près, rapporte de l'argent. C'est juste à quel point on veut avoir cet argent-là, rapidement ou pas.
OK.
Donc, par exemple, en astronomie, je prends un exemple que j'ai déjà... un exemple qui me vient là, de conférences que j'ai eues dans le passé, où chaque dollar investi en astronomie au Canada, donc ben souvent c'est pour bon, faire des objets, des appareils qui vont te permettre d'observer le ciel, des télescopes ou des systèmes radio, peu importe, c'est toujours des télescopes, mais sous différentes formes.
Mm-hmm.
Cet argent-là, la part du temps, va rapporter, par exemple, pour chaque dollar investi au Canada dans un télescope, va rapporter 3 dollars. Mais est-ce qu'il va le rapporter l'année prochaine ou dans 10 ans?
Okay.
Et la réponse est souvent dans 10 ans, évidemment. Donc, ça déplaît beaucoup aux penseurs bon, conservateurs, en tout cas, ou qui, eux, en tout cas, surveillent le marché plus que le physicien standard ou celui qui est encabané dans son laboratoire pour faire des appareils, justement, qui vont permettre de révolutionner la science, mais... pas dans la semaine qui suit.
Tu me disais que tu avais constaté qu'il y avait eu plusieurs coupures ces dernières années, donc dans la recherche fondamentale. On n'en a pas beaucoup entendu parler dans les médias. Est-ce que tu as une explication pour ça?
Il y a deux explications. La première explication, c'est que le monde, ça ne les intéresse pas tant que ça. T'sais. Les coupures en sciences, à moins que genre leur fils vienne de commencer un bac à l'Université Laval, en sciences et génie. Oh là, les coupures en sciences, est-ce que mon fils va pouvoir continuer son bac?
Ouais.
Ce qui n'est pas du tout relié à la question finalement. Ou bien, c'est le fait que le monde, en fait, il aimerait ça qu'on. Pour eux, la science, c'est rien. Fait que, tu sais, ils n'ont pas de contexte, en fait, pour lequel ce serait important, ces coupures-là.
Est-ce que tu as l'impression que l'image de la science s'est dégradée? Que pour les gens, c'est devenu moins important qu'avant ou pour toi, ça n'a jamais été important pour les gens, la science?
Ben, en fait, non. En fait, je pense qu'il y a une partie de la population que ça intéresse, la science en général. Sinon, il n'y aura pas Découverte, c'est probablement une des émissions les plus vieilles à la télé de Radio-Canada.
Je pense qu'elle n'a pas un très haut taux de code d'écoute, par contre.
Non, évidemment, ça fait partie du mandat radio-canadien, un peu comme les années-lumière en radio. Donc, bon, ils font un peu par obligation.
Oui.
Mais je pense pas que ça... Non, je pense que les codes d'écoute sont pas si mal. Donc, je pense qu'il y a quand même un intérêt. Puis les revues scientifiques, tu sais, il n'y a pas juste le Radio-Canada, il y a toutes les revues scientifiques qui continuent, qui perdurent. Donc, bon, il y a sûrement un intérêt. Mais il y a évidemment, oui, c'est, en général, je dirais que c'est vrai que les gens s'intéressent de moins en moins à la science pour diverses raisons.
Mm-hmm.
J'en ai trouvé 4.
OK, on t'écoute.
Donc, on va les explorer.
On va les explorer.
La première raison, selon moi, c'est que ça vient des scientifiques eux-mêmes.
Ah.
C'est que là, présentement, là, évidemment, dans un mode de pensée, oh, il y a des coupures, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça?
Oui.
Fait que souvent, ça, on va se dire, bon, OK, ben, ça prend du meilleur PR, donc de la meilleure diplomatie scientifique, ça prend des personnes qui parlent bien aux responsables, à la gouvernance, finalement, de la science. Donc, ça, c'est souvent l'espèce de réflexe là, qu'on a, que les scientifiques ont. Je parle là, vécu, là, par expérience personnelle, parce que je connais quand même des gens qui ont à faire ce genre de travail-là, justement, de parler en bien de...
Les scientifiques trouvent qu'on ne fait pas une bonne promotion de la science,
non,
c'est
ben,
ça?
Non, en fait, ils voudraient faire une meilleure promotion de la science auprès des dirigeants.
OK.
Mais moi, je pense que le problème...
C'est du lobbying, ça.
Oui, du lobbying, exactement. Du PR, c'est du lobbying, mais c'est une autre façon de le dire. Mais moi, je pense que le problème, de ce point de vue-là, il est différent. C'est qu'on ne parle pas assez de la science à la population.
OK.
Et quand je dis on ne parle pas assez de la science, on revient un peu sur le thème de découverte. On parle beaucoup de science, par exemple, dans des revues, des émissions de télé, mais on ne parle pas beaucoup. On vulgarise la science, mais on ne vulgarise pas le travail du chercheur.
OK.
Donc, on parle de science, mais on ne parle pas de qu'est-ce qu'être un chercheur. Puis ça reste bien nébuleux dans la tête du monde, ce qui fait que, bon, c'est pas dans leur préoccupation immédiate. Tu sais. À moins de connaître un chercheur directement, ils savent pas vraiment ce qu'ils font.
Les gens ont encore l'image d'Einstein, le chercheur avec la tête un peu ébouriffée, avec un crayon et qui fait des formules mathématiques.
Oui, exact. Ça reste nébuleux pour eux. Ou bien, ils se ramènent à des standards de science qu'on connaît tous, là, Galilée, Newton, des gars avec des perruques.
Oui.
Qui travaillent, puis que, tu sais, on sait pas trop ce qu'ils font, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est une des principales choses que, tu sais, tout le monde a le goût de savoir ce que fait un scientifique dans sa vie de tous les jours, mais il n'y a personne qui en parle vraiment.
Ouais.
Puis quand on interroge des scientifiques, en fait, la faute est aux scientifiques dans ce cas-là. Parce que les scientifiques ont bien plus de fun ou de motivation à parler de leur science, ce qu'ils font dans leur travail,
ouais,
que de parler de leur travail.
Oui, je comprends.
Si tu comprends.
Oui, je comprends bien la différence.
Et un deuxième truc, je pense, qui fait, en fait, ouais, dans mes quatre choix, là, le deuxième, je pense que c'est un peu le fait que le monde considère, en fait, que si tu es en science, que tu es chercheur, donc ce qui touche le monde qui sont directement touchés par les coupures dans les organismes subventionnaires, je parle pas du sous-financement des universités, parce que le sous-financement des universités touche tout le monde.
Oui.
Et les chercheurs et les étudiants au bac qui rentrent à l'université, et même le monde au cégep. Tu sais. Donc,
oui, là, on ne va pas mélanger tout ça parce que c'est vraiment un dossier à part, les universités.
Ça. On en parle beaucoup dans les médias.
Oui, ça, on en parle beaucoup.
Mais ce qui touche directement les chercheurs, par exemple, c'est que le monde pense que si tu as fait 5 ans d'université, tu es clairement une personne qui est vouée à avoir un salaire hors norme,
ouais,
que tu vas être riche pour le reste de ta vie. Pourquoi? Ben, on coupe, mais ils sont déjà riches. On enlève juste un peu d'argent à des gens qui sont riches. C'est pas grave. Là, cet argent-là, on est bien mieux de le mettre dans d'autres trucs qui font qu'il y a du monde pas riche qui vont le devenir parce qu'eux sont déjà riches. Il y a un peu ce mode, cette pensée-là, un peu magique, là, de ben, on peut enlever de l'argent, mais c'est pas vrai.
La réalité est très loin de
oui,
ça, en
c'est
effet.
C'est sûr. À moins que tu sois une personne qui est vraiment chanceuse, qui va trouver un poste de professeur ou dirigeant d'un centre de recherche, ben, tu n'auras jamais le salaire d'un médecin qui a fait les mêmes années d'études que toi. Tu sais. Puis là, je parle encore une fois en termes personnels.
Ouais.
Ouais. Ça, je pense que c'est, ben, ça, mais c'est pas la faute la plus grave. Je pense que les deux choses qui sont les plus graves présentement pour cette espèce de perte de foi-là envers la science, il y a premièrement le fait que la plupart des gens vont penser que la science, c'est un peu une secte. C'est les gens se parlent entre eux. Mais ça revient un peu au concept de les scientifiques, c'est un peu nébuleux. Ça revient au concept qu'on ne parle pas assez du travail des scientifiques. Donc, le monde pense que, bon, ils trouvent des résultats qui les arrangent un peu. Ça, c'est parmi les conspirationnistes aussi un peu. Là,
oui.
Ils trouvent des résultats qui les arrangent un peu. Mais moi, ça ne me touche pas parce que moi, de parler de protons et de photons, dans ma vie de tous les jours, ça ne me dit rien. Donc, probablement que ces gens-là travaillent pour eux-mêmes. Tu sais.
Oui, les gens ne comprennent pas l'objectif ou l'utilité de la science. Oui,
c'est
fait. Ça.
C'est un peu loin d'eux. Fait que, puis, tu sais, il y a beaucoup, en fait, pas beaucoup de monde, mais il y a certaines personnes qui vont jusqu'à dire que la science, c'est la nouvelle religion. Tu sais. On a mis Dieu au rancard, les églises ne servent plus, mais il y a une nouvelle science qui est née, qui est la science ou genre la nouvelle religion qui est. Ah, mais tu sais, maintenant, on vit dans un monde où on est sur Internet 24 heures sur 24, la technologie est partout. Ben,
oui, mais la technologie et la science, c'est pas du tout la même chose.
Exactement,
là.
C'est ça. Fait que faut pas mêler les deux. C'est pas parce qu'on vit dans un monde rempli d'ordinateurs et de technologies, ce qui est un avancement de la science, finalement, au sens large, que genre, c'est une nouvelle religion. Là. Parce que la science, en général, la science fondamentale ou la science de la recherche, et non pas celle qui produit les ordinateurs, il y a un peu de ça aussi dans la science qui produit des ordinateurs. Il y a de la recherche, évidemment, qui se fait là-dedans
qui
aussi.
Qui a commencé. Au départ, il y a toujours la science fondamentale avant d'arriver à la science appliquée.
Les gens ne se basent pas leur découverte sur des « Ah, je pense que ça marche comme ça ». C'est qu'il faut qu'ils publient des articles qui sont acceptés ou pas par un comité indépendant.
Est-ce que tu as l'impression qu'il y a de la propagande anti-science qui se fait? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un discours anti-scientifique?
Bien, je pense que ça va dans les deux sens. C'est que le public se désintéresse de la science, donc la gouvernance ou la politique prend un peu le pouls de la population et fait en sorte que, bon, ils font des politiques qui sont moins agréables pour les scientifiques. Puis il y a aussi l'inverse, probablement. C'est que, en fait, là, j'ai une belle citation aussi de Normand Baillargeon, qui est un gars qui écrit dans Le Voir. comme éditorialiste, en fait, qui parle souvent de plein de trucs différents. Mais il y a une citation bien intéressante, en fait, que j'essaie de retrouver.
Attends, je pense que je l'ai ici.
J'allais. Donc, c'est cette semaine, en fait. Donc, il parle de l'environnement. On n'a pas parlé beaucoup jusqu'à maintenant, mais l'environnement, c'est clairement un secteur au Canada qui est le plus touché par cette espèce de anti-science-là, la science environnementale.
Oui, parce que c'est une science, parce que les découvertes qu'on fait en environnement nuisent à l'économie, en fait.
Ben oui.
Carrément.
Ben, en fait, peut nuire à l'économie si on y va drastiquement.
Oui.
Mais évidemment, pour certains think tanks, j'emploie le mot anglais, mais d'espèces de boîtes à penser ou d'organismes qui sont souvent proches des instances politiques puis qui essaient de... Ben, c'est des groupes de lobbying, finalement, oui. Mais qui ont souvent le crédit universitaire ou en tout cas approuvé, l'estampe intellectuelle approuvée, ben, ils vont faire des pressions, évidemment. Puis bon, ben, le groupe de Calgary, c'est celui qu'on entend souvent le plus parler dans les médias, mais c'est l'espèce d'entourage de Stephen Harper, très, très à droite, conservatiste, tout ça. Puis Normand Maillargeon, pour venir à ça, citait dans son article de cette semaine un truc que j'ai trouvé vraiment intéressant. Puis à propos, je vais le citer intégralement. Pour ne citer qu'un chiffre, une recherche sérieuse parue en 2008 estime qu'aux États-Unis, entre 1972 et 2005, 92% des ouvrages exprimant des positions mettant en doute le sérieux des problèmes environnementaux et le consensus scientifique sur ces questions ont été financés par des think tanks conservateurs.
Oui.
Donc, dans une recherche, là, ben, probablement qui n'est pas faite par un think tank conservateur, parce que je ne suis pas sûr qu'il s'auto-citerait, là, mais il y a quand même 92% des ouvrages qui sont contre le réchauffement climatique, par exemple, qui est ben, le problème, le truc scientifique dont on n'entend plus parler depuis 10 ans.
Donc, ce que je comprends dans ton discours, c'est qu'en ce moment, il y a des idéologies politiques qui décident des recherches qui vont être faites et des recherches qu'on décide de ne plus subventionner parce que ces recherches-là sont considérées soit gênantes au niveau économique, soit inutiles au niveau économique.
Exactement. Donc, c'est comme deux affaires qui s'additionnent. C'est des recherches qui ne donnent pas d'argent ou encore pire, des recherches qui permettent de ne pas avoir plus d'argent. Ça, c'est le bout de la marde.
Ouais.
On ne peut pas faire ça. Donc là, présentement, on est comme dans ce régime-là, justement. Et puis, je parle du Canada parce que, bon, ça nous touche nous directement, mais aux États-Unis, c'est de commencer aussi depuis... ça les touche là, particulièrement. Puis même dans l'ensemble de l'Occident, finalement, c'est un peu le généraliser tout ça.
En terminant, ça va être quoi les conséquences pour toi de ce qui est en train de se dessiner là, dans le monde scientifique?
Ben, il y a deux conséquences. Là. Il y a une conséquence qui est, je vais continuer à faire mon truc, mais en espérant que l'argent qui me paye, ça, c'est la conséquence directe.
Là. C'est que toi, tu risques de perdre ta job.
Oui, c'est ça. Mais la deuxième conséquence qui est plus grave, c'est que d'un point de vue international, par exemple, si on refuse de subventionner la science dans un monde où les projets scientifiques sont de plus en plus gros et demandent de plus en plus l'aide d'un ensemble de pays, ben si le Canada, par exemple, pour prendre l'exemple du Canada, là, si le Canada subventionne de moins en moins la science, ben on finit par toujours refuser ces espèces de gros projets-là.
Mm.
Puis à long terme, ça pourrait faire que le Canada va juste être complètement en dehors de ce monde-là qui va continuer de progresser. Tu sais, la science n'arrêtera jamais, là, mais... dans le mode où on est présentement, où la science est pas privée, est privée, mais est beaucoup due au gouvernement, les subventions surtout, on va pouvoir rien faire si le Canada continue dans cette lignée-là.
Le Canada va avoir un sérieux recul au niveau de la recherche fondamentale.
À long terme, on va perdre beaucoup d'argent malgré ce que certaines personnes semblent penser.
C'est intéressant de le souligner. Merci beaucoup, Simon. Avant de passer au prochain point, il y a David, je pense, qui voulait nous lire quelque chose. On t'attend, David. Tu vas nous lire une citation, une autre citation?
Oui, puis là, celles-ci sont tout à fait à propos...
on t'entend.
Oui, celles-ci sont tout à fait dans le sujet que Simon évoquait plus tôt. Et moi, j'aurais peut-être juste un petit ajout concernant... tu disais tantôt qu'on n'avait pas beaucoup entendu parler des coupures en sciences...
Bien, en sciences pures, puis en sciences fondamentales.
Oui.
C'est peut-être parce que c'est un peu gênant de couper là-dedans. Mais ça, favoriser l'industrie plutôt que les sciences fondamentales, les recherches fondamentales, pardon, c'est assez gênant. Alors, bon, pardon. J'en ai une ici de Harper.
Qui, ah, de notre tantôt, premier ministre.
Oui. Tu parlais tantôt de. Des sciences pour la. Pardon, de la recherche pour l'écologie, ben, ça risque de ne pas s'améliorer, puisque en 2007, M. Harper nous disait le protocole de Kyoto est un complot socialiste visant à extorquer de l'argent aux pays producteurs de richesses. Alors, ça, c'était notre cher Stéphane.
Ça, c'est vraiment un exemple parfait de la langue de bois, là.
Oui, absolument. J'en ai une autre du ministre, Gary Goodyear.
Gary Goodyear, ça, c'est le ministre.
Gary Goodyear, c'est le ministre d'État aux sciences et à la technologie. Donc, c'est ça. L'époque est révolue où les chercheurs pouvaient atteindre la gloire simplement en publiant un article sur une nouvelle découverte. Le succès survient quand on utilise les nouvelles découvertes pour un gain social. Oui, un gain social, vous avez bien entendu, ou oui. Économique, bien sûr. Économique, ça, tout le monde l'a bien entendu. Le rôle du CNRC, donc le Conseil national de recherche canadien, j'imagine?
Oui.
Oui, le CNRC, sera d'appuyer les industries canadiennes et de faciliter la mise en marché de leurs produits. Et ça, c'était, oui, le 7 mai 2013. Alors, bon. Voilà.
Alors, tout est clair. On sait maintenant quel doit être l'objectif de la recherche scientifique. C'est de faire de l'argent. Alors, on va passer à la deuxième partie de notre émission. On va parler de l'autre obstacle aux sciences, qui est l'ignorance. Mais on va faire une petite pause musicale avant. On va écouter la pièce « I'm a Believer » de Smash Mouth. Et on revient avec Martin.
Saw her face. Now I'm a believer, and not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. The more I gave, the less I got. Saw her face. Now I'm a believer, and not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace.
c'était I'm a Believer de Smash Mouth. Avec Internet, on a parfois l'impression qu'on possède toute la connaissance du monde au bout d'un clic de souris. Encore faut-il être capable de différencier ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est science de ce qui est superstition, de ce qui est vérifiable par les faits de ce qui appartient au domaine de la croyance ou de la foi. Moi, je veux bien croire que le cerveau humain est capable de télépathie ou qu'on peut vivre sans manger. Ce serait pratique, hein? Puis l'idée est plaisante en plus. Mais ça ne signifie pas qu'elle soit vraie. Cher Martin, tu vas nous parler de la pseudo-science.
Eh oui, la pseudo-science.
Qu'est-ce que la pseudo-science?
Ben, je vais y aller d'une définition personnelle un peu. Pour moi, la pseudo-science, c'est l'ensemble des démarches et des connaissances qui se situent quelque part, justement, entre la religion et la science.
OK.
Alors, la religion, quelle qu'elle soit, qu'on y croit ou non, ça n'a pas de prétention scientifique. Hein? Sauf peut-être l'Église de Scientologie, là, de
oui,
par son nom.
Eux, ils ont des prétentions.
C'est une exception, mais eux, c'est une pseudo-religion. C'est pas tout à fait la même affaire. Et, alors, la religion, en général, ça s'appuie sur des dogmes qui sont, par leur nature, non réfutables. Et oui. Il faut retenir ça parce que c'est important dans les définitions qui vont suivre. La science, quant à elle, s'appuie sur des axiomes qui ne sont pas nécessairement coulés dans le béton, c'est-à-dire qui peuvent être remis en question, c'est-à-dire être réfutés. C'est le principe de la réfutabilité.
Okay.
Et de plus, la science adhère à ce qu'on peut appeler la méthode scientifique. Alors, oui. Il y a une méthode scientifique qui fait en sorte que, bon, on passe à travers un certain protocole pour dire voici ça, c'est une hypothèse, voici comment je la prouve, etc., etc. J'ai des groupes témoins, par exemple, quand je fais une étude, etc. La pseudo-science, elle, ça englobe les connaissances et les démarches non scientifiques qui ont la prétention d'être scientifiques.
OK.
Et qui affichent un langage qui donne l'illusion de l'approche scientifique. Alors, on va voir des exemples de ça plus tard. Il faut faire attention, par exemple, ça ne veut pas dire que tous les charlatans ou tous les gens qui comptent n'importe quoi sont nécessairement des pseudo-scientifiques.
OK. Je pense justement à l'homéopathie dont je parlais en début d'émission. Ils ont une démarche scientifique.
Oui, ça, c'est une pseudo-science.
Ça, c'est une pseudo-science.
Oui, l'homéopathie, okay. C'est une pseudo-science selon les définitions qu'on va donner tout à l'heure.
Okay.
Mais par contre, un médium, là, tu sais, c'est eux qui parlent aux esprits.
Oui.
C'est pas un pseudo-scientifique, le gars qui fait ça ou la femme qui fait ça. Même si, premièrement, ça ne prétend pas du tout relever d'une démarche scientifique.
Voilà.
Ce n'est donc pas une pseudo-science. Même s'il prétend que les phénomènes qu'ils observent sont réels. Ça n'empêche pas d'être un charlatan. Mais ce n'est pas, ça n'a pas rapport avec la pseudo-science.
Okay. La pseudo-science doit prétendre être un peu scientifique,
c'est ça.
En fait.
Et comme tu le disais, contrairement à ça, l'homéopathie, par exemple, ça se présente comme une science, oui. À la fois par ses principes, énoncés comme étant des lois de la nature, par la mise en œuvre régulière de différentes études cliniques visant à démontrer que les médicaments homéopathiques ont des effets supérieurs à ceux de placebo, mais ces résultats-là, évidemment, n'ont jamais été démontrés, ni ces principes-là vérifiés. Okay. Il s'agit donc, dans un cas comme ça, d'une pseudo-science. Alors, c'est quoi les critères généraux, si tu veux, qui nous permettraient d'identifier une pseudo-science? Tout d'abord, la discipline n'est pas enseignée à l'université ou dans le monde académique.
N'est pas reconnue par la communauté scientifique.
C'est ça. Tu ne peux pas avoir un diplôme universitaire en quelque chose qui serait une pseudo-science. Par contre, ça, c'est un des critères qui est remis en question beaucoup.
OK.
Premièrement, parce qu'il y a souvent des sciences, une science qui est en train de naître, par exemple.
Oui, oui, oui.
Elle ne peut pas être enseignée du jour au lendemain à l'université. Alors, il y a ces cas-là, évidemment. Okay. On parlait d'astrologie à un moment donné.
Oui.
L'astrologie, ça a déjà été enseigné à l'université.
Ça a déjà été considéré comme
une science. Ça a déjà été considéré comme une science. Au Moyen Âge, tu n'aurais pas pu dire que l'astrologie était une pseudo-science.
Non.
Parce que, selon ce critère-là, entendons-nous.
Oui, oui, oui.
Parce que c'était effectivement enseigné à l'université.
L'alchimie.
Aujourd'hui, tu as la génomique, la protéomique qui sont tout récemment enseignées. Là, quelque temps, ça ne l'était pas.
Okay.
Si on pense à toutes les sciences qui ont rapport au chaos, par exemple, toutes ces choses-là, maintenant, ça l'est. Quand ça naissait, ça ne l'était pas. Alors ça, c'est un critère qui est plus ou moins valable.
Okay.
Les autres qui suivent, par contre, eux, sont jamais remis en question. Alors, un des critères, l'absence de vérification empirique des hypothèses proposées. Okay. Là, je vais les nommer. Peut-être qu'on en détaillera quelques-unes, parce qu'il y en a plusieurs. L'impossibilité de réfuter les hypothèses soumises. Alors, c'est souvent des dogmes. On dit, garde, c'est comme ça, parce que c'est le même. Puis, il n'y a pas moyen de prouver que c'est pas vrai.
Mm-hmm.
Des erreurs méthodologiques, des manipulations statistiques des résultats. Bref, on s'arrange pour que notre truc fonctionne en faisant du cherry picking, comme on dit en anglais, c'est-à-dire je vais prendre les données qui fit avec ce que je veux dire, avec mon message. Exemple, une compagnie pharmaceutique va dire que son nouveau produit est efficace dans 25 % des cas, mais à ce qu'elle omet de dire, c'est qu'un placebo a exactement le même effet. Fait que son médicament, ça vaut rien. Ça vaut pas plus cher qu'un placebo.
Tu mettrais ça dans la pseudo-science?
C'est un exemple de démarche pseudo-scientifique.
Okay.
La compagnie pharmaceutique fait pas nécessairement de la pseudo-science, mais si elle biaise ses résultats comme ça, elle agit comme
un pseudo-scientifique.
Comme un pseudo-scientifique. Ensuite de ça, des conclusions hâtives, des fausses conclusions qui n'ont pas vraiment rapport aux résultats. L'utilisation de sophismes pour appuyer une conclusion. Alors, évidemment, une logique tout croche. On pense la radio poubelle, en fait, un usage constant.
Prétend pas des scientifiques, par contre.
Non, ils ne se prétendent pas des scientifiques, mais le langage et la façon d'amener les choses, c'est un peu le même procédé, si tu veux, qu'on emploie en pseudo-science. C'est-à-dire de mêler un peu les cartes, de dire ben de sauter du coq à l'âne, de dire voici, c'est comme ça, donc. Les donc viennent facilement. Là. Et aussi des remises en cause abusives d'acquis scientifiques. Ça, c'est un petit peu comment on peut avoir la puce à l'oreille, si tu veux, quand on voit quelque chose qu'on pense être de la pseudo-science.
Oui.
Eux autres, évidemment, ils font tout pour paraître scientifiques. Alors, tout d'abord, dans leur nom. Ils vont utiliser des suffixes comme « logis ». Quand c'est... pour, évidemment, avoir rapport avec la biologie, la pharmacologie, la géologie, qui sont des véritables sciences. Là, on va aller voir l'astrologie, la graphologie, la réflexologie, la futurologie, la tarologie, l'ufologie, etc. Dans les médecines, et là, on rajoute « pathie ».
Là, il faut quand même préciser aux gens que « logie » veut dire « étude de ». Hein?
C'est ça, exactement. Sauf que ça sonne scientifique.
Oui.
Alors, pour eux, c'est important. Quand on parle de médical, on va rajouter « pathie ». Alors, l'homéopathie, l'ostéopathie, la naturopathie ou thérapie, dans d'autres cas,
oui,
la phytothérapie, la lithothérapie, n'importe quoi thérapie, regarde, la biérothérapie, peu importe. Ensuite de ça, aussitôt qu'ils se font critiquer, ils ont un espèce de modus operandi pour dire non, écoutez, là, discréditez pas nous, voyons,
ne nous
discréditez pas.
On va l'avoir.
Dites pas que c'est de la merde, qu'est-ce qu'on dit.
Voilà.
Alors, souvent, ils ont recours à des arguments d'autorité. Alors, ils font des citations de Feynman, de Einstein, mais toujours sortis de leur contexte.
Oui.
Alors, évidemment, on a toutes sortes de trucs. Si on parle de mécanique quantique, personne ne sait trop c'est quoi dans le grand public. Ça fait que tu rajoutes quantique au bout de quelque chose, puis ça a l'air ben hot, t'sais. Alors, évidemment, on accuse les scientifiques de dogme, exactement le contraire, c'est eux qui le sont. Par victimisation, on s'identifie à Galilée. Oui, mais regardez, Galilée, il avait raison, puis c'est tatatata. Alors, eux, les pseudo-scientifiques, ont raison, c'est juste qu'on les comprend pas encore, qu'on n'a pas tout à fait saisi leur démarche. c'est ça. Alors, il y a plein d'exemples comme ça de persécution à travers de pseudo-scientifiques qui se sentent persécutés quand on les attaque.
C'est pas facile pour les gens de faire la part des choses entre la pseudo-science et la science parce que, en fonction de ce que tu me dis là, le langage correspond, le langage ressemble à un langage scientifique. Et le manque de rigueur méthodologique, c'est pas seulement dans la pseudo-science. Là. J'ai l'impression que c'est assez répandu aujourd'hui. On parlait des compagnies pharmaceutiques tout à l'heure qui manquaient de rigueur, souvent.
Contrairement, tantôt, on parlait à la recherche fondamentale, qui n'est pas là. Le chercheur qui est dans son petit domaine, qui est en train de faire de la recherche fondamentale en physique ou en chimie, il n'a pas nécessairement une idée, lui, de faire de l'argent avec ça.
Non.
Le pseudo-scientifique, lui, est là pour te vendre quelque chose, c'est automatique.
Ah, ça, c'est peut-être une manière d'avertir les gens, là. C'est une manière de voir c'est quoi la différence entre la pseudo-science et la science quand on veut faire de l'argent.
C'est marqué miracle à côté. des cures, des choses qui ne se guérissent pas ou des affaires... des choses.
C'est trop beau pour être vrai.
C'est ça, quand c'est trop beau pour être vrai, puis que ça coûte pas cher.
Quelque chose, sinon?
Ouais, c'est ça, mais en fait, souvent, en fait, dans les pseudosciences, il y a une déformation de la statistique.
Oui. Mm-hmm.
Donc, les sciences, les mathématiques statistiques que le monde connaisse en général pas très bien.
Oui.
Donc, à chaque élection provinciale ou fédérale, en fait, on a des beaux billets statistiques qui sont promus par des journaux qu'on nommera pas. Mais ça s'applique aussi aux sciences en général. Si les gens avaient une connaissance un peu plus approfondie des statistiques, ou juste, des fois c'est banal, là, mais il y a un usage de la statistique en pseudosciences dans certains cas qui fait que un lecteur un peu averti va pouvoir dire « Oh, OK, le traitement donné à ce résultat-là est complètement biaisé. » Vis-à-vis le résultat qu'on veut avoir, finalement.
Puis ça finit par discréditer la statistique. C'est la manière dont on utilise ça pour faire, pour prouver tout et n'importe quoi.
Ben, oui, effectivement, c'est sûr. Puis certaines firmes, par exemple, les firmes qu'on retrouve dans tous les sondages, là, Thorne et Associés ou je sais pas trop quoi, ben, les GLG, tu sais,
ouais.
Ben, ces gars-là, généralement, ils font un bon travail. Mais sauf que le monde... Ils prennent leurs résultats puis ils voient ce qu'ils veulent. Ils ne demandent pas au gars qui a fait les statistiques qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Ils font leur propre constat de la statistique qui est donnée.
Est-ce que c'est moi où j'ai l'impression qu'il y a un essor de la pseudo-science depuis peut-être 10 ans, 15 ans?
Oui, on pourrait dire ça. Il y en a toujours eu, hein, je veux dire.
Oui,
il y en a toujours eu. Et tantôt, je jasais pendant le break avec Simon. Puis je veux dire, il y a beaucoup de pseudo-sciences qui sont devenues par la suite des sciences. Si on pense à l'astrologie, à l'alchimie, qui ont donné naissance à
des sciences,
à des véritables sciences, qui aujourd'hui, quand on les applique, l'astrologie, bon, ça devient une pseudo-science, mais à l'époque, si on a fait des cartes du ciel et tout ça, c'est grâce aux astrologues de cette époque-là.
Tout à fait.
Ce sont devenus des astronomes par la suite. L'alchimiste est devenu chimiste aussi. Tandis que si on prend... Ça, c'est deux exemples qui sont clairs. Que, je veux dire, on pourrait appeler ça des pseudo-sciences qui ont gradué, si tu veux, vers la science. Mais aujourd'hui, on a une panoplie de stupidités qui sont là carrément juste pour faire des sous, là...
David veut intervenir.
Ouais, je vais juste mettre une seule exception. Il y a Pur Noistier de Marcel Leboeuf qui fonctionne vraiment. Moi, ça m'a guéri.
Je vais revenir là-dessus parce que c'est une des raisons pour laquelle les gens croient à la pseudo-science. C'est que c'est comme dans n'importe quoi. On se rappelle des trucs qui marchent puis on ne se rappelle pas des trucs qui ne marchent pas.
OK.
Alors, ton oncle est malade. Et là, ton oncle passe à travers toute la médecine traditionnelle, comprends-tu? Puis ils peuvent rien pour lui. Alors, c'est une réaction normale. Le gars, il a le cancer, tu sais, ou il a une maladie grave, peu importe. Et là, le médecin lui dit, écoutez, monsieur, il vous reste 6 mois à vivre, je ne peux plus rien faire pour vous. Qu'est-ce que la personne fait? Elle se tourne vers des alternatives.
Oui.
Et évidemment, sur 100 mon oncle qui vont aller voir ces pseudo-scientifiques-là, il y en a un qui va guérir de lui-même.
Oui.
Hein?
Oui.
Parce qu'à un moment donné, il y en a des rémissions, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Il n'aurait pas eu le traitement de naturopathie ou d'homéopathie ou de n'importe quoi, il aurait guéri pareil. Mais on ne peut pas répéter l'expérience.
Non, c'est ça.
C'est toujours ça le problème, c'est que ce sont des expériences non répétables. Sauf que la personne qui, effectivement, elle a fait 1 plus 1 égale 2.
Oui.
J'ai été guéri, j'ai pris cette patente-là. Mmh. Ça fonctionne, et là, ben, ça se répand comme une traînée de poudre. Et ça n'en prend pas beaucoup de cas qui fonctionnent comme ça pour que la personne à l'autre bout, comprends-tu, ait une business d'homéopathie, de naturopathie.
Mais en fait, ça a toujours existé. Puis autrefois, le vocabulaire que les gens empruntaient pour mousser ces guérisons-là, c'était un vocabulaire religieux. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens utilisent un vocabulaire scientifique parce que la science est plus populaire. Que
la religion a perdu des plumes. Alors...
Ouais.
C'est une des raisons pour laquelle la pseudo-science prend du galon. C'est parce que, je veux dire, il y a un vide, là. Alors, évidemment, on essaie... Parce que la pseudo-science, là, ça englobe aussi toutes sortes de choses. Je vais faire une petite liste, là, un petit listing rapide. Tu voulais intervenir?
Oui. Mais moi, je veux dire que j'englobe le slap shot dans la pseudo-science.
Ah bon?
Le slap shot.
Oui, peux-tu nous expliquer ça, sinon?
Ben, c'est le truc, l'infopub qui fait que ça tranche vraiment rapidement.
Ah oui, 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 oui! Merci.
Moi, je pense qu'il n'y a pas eu de preuves scientifiques à tout ça en dehors de l'infopub.
Alors, je vais vous faire une liste. Il y en a qui vont quand même paraître surprenants parce que, bon, on dit, ah oui, c'est une pseudo-science, mais apparemment, oui. Alors, évidemment, le dessin intelligent, ce qu'on appelle le créationnisme, là, oui. Le dessin intelligent. L'astrologie en est un, évidemment. Ça ici, sa filiale, l'astro-archéologie. Je ne sais pas exactement ce que c'est.
Tu as fait une liste?
Oui, une liste sur Wikipédia, entre autres, mais ailleurs aussi.
D'accord.
Alors, la graphologie, évidemment, l'ufologie, l'homéopathie, l'ostéopathie, la chiropraxie. D'après les définitions, la naturopathie, la plupart des sciences occultes, l'alchimie, la psychanalyse.
Ah, ce serait une pseudo-science.
Qui tombe exactement dans les définitions de la pseudo-science.
Tout à fait, c'est vrai.
Et qui est interdit dans certains pays et qui n'est pas reconnu dans certains pays, entre autres en France.
OK.
Certaines psychothérapies, l'orgonomique, je ne sais pas ce que c'est.
On ne sait pas ce que c'est.
L'étude sociologique du phénomène OVNI, la cryptozoologie, ceux qui courent après les yétis et tout ça, là, ça, c'est intéressant aussi. Sauf que là, ici, on fait une petite distinction parce que eux, il y a les quatre derniers ici essaient d'utiliser vraiment des méthodes scientifiques, mais sauf qu'ils courent après des affaires qui n'ont pas de bon sens.
Okay.
Puis il y a des cryptozoologues qui ont trouvé des nouvelles espèces aussi.
Oui, oui.
Des fois, parfois par hasard, en cherchant des trucs, ils ont trouvé d'autres choses.
T'sais. Ah oui? Ouais. OK.
Oui. Alors, il y en a là-dedans qui sont un petit peu plus organisés, là, okay. Dont la cryptozoologie, la céréologie, qui utilise la formation des motifs géométriques dans les champs.
Ah oui!
Mais même si tout ça, c'est le fermier qui l'a fait ou des mondes qui ont fait une joke, eux autres, ils ont une méthode scientifique pour l'étudier.
Mais leur méthode est assez rigoureuse, en fait.
C'est ça, c'est ça. Ils ont une méthode rigoureuse où il y en a d'autres qui n'ont pas
de leur objet d'étude est loufoque.
Exactement, exactement. Ça, il y a une distinction à faire avec ça. Et la même chose aussi est valable pour les approches paranormales et toutes ces choses-là, qui parfois utilisent des méthodes correctes, si tu veux.
Rigoureuses, en tout cas.
Rigoureuses, exactement. Les causes de tout ça, pourquoi ça pogne? On a parlé de la baisse de religion et qui, à un moment donné, qui a donné naissance au phénomène de New Age qu'on connaît, oui. Alors toute espèce de spiritualité, tout ça qui a remplacé la religion. Et aussi, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. On disait tantôt que la science était en baisse un peu de popularité.
Oui.
Par contre, si on regarde le nombre de photos d'Einstein avec des citations tout croche qu'on peut voir sur Facebook de choses qu'il n'a jamais
formidable.
Dit,
ça, c'est
extraordinaire.
Formidable.
Alors, mais c'est ça. Alors, les gens, je pense qu'il y a une espèce de vide. Les gens n'ont pas nécessairement une connaissance très approfondie de...
Oui.
De
oui, mais
Et je pense que ça s'adresse surtout toutes ces, comme je disais tantôt, ces espèces de pseudo-sciences-là s'adressent à des gens qui sont fragiles, qui ont besoin de quelque chose. Alors, évidemment, si tu es malade, puis tu as tout essayé, puis rien ne marche, tu vas aller essayer ces trucs-là.
Ouais.
Si tu es préoccupé par des choses, tu vas aller consulter un astrologue parce que tu ne peux plus aller voir le curé. T'sais. Alors, c'est tout un phénomène de remplacement qu'on a comme ça,
ouais.
Qui fait en sorte que les gens embarquent là-dedans à pieds joints et se font soutirer des sous.
Il y a l'ignorance aussi. C'est sûr que plus les gens, moins les gens savent exactement ce qu'est la science, plus la pseudo-science peut proliférer.
Oui, oui, tout à fait. Exactement.
Moi, je dirais en fait qu'il y a un manque d'éducation scientifique, mais en tout cas, là, je parle pour moi. Là, je trouve qu'il y a un manque d'éducation scientifique jeune, ce qui fait que les gens n'ont pas les outils pour pouvoir différencier ce qui est scientifique de ce qui ne l'est pas.
Il y a quelqu'un
qui veut intervenir.
Une intervention ou une question.
Julie Anaïs.
Il ne faut juste pas confondre croyance.
Pour que tu parles dans le micro, par exemple, on ne t'entend pas.
Il ne faut juste pas confondre croyance puis science. Là, parce que genre, tu parlais de tous les moyens genre, autres de soigner tout ça. Puis je pense que c'est dû plus à la croyance qu'à des faits factuels scientifiques.
Oui, c'est genre, ça. La pseudo-science, en fait, c'est de la croyance. Exactement.
C'est ça. Et tu sais, moi, dans pseudo-science, je mettrais plus tout ce qui a à faire avec les extraterrestres, les ovnis, puis des affaires de même. Là. espèces de trucs paranormaux qui ne sont pas expliqués puis qu'on essaie d'expliquer par la science.
Ça en fait partie aussi, mais en tout cas, du moins, dans tout ce que j'ai lu, ça incluait tout ça. Je veux dire, mais bon.
Oui, c'est ça. Il y a différents critères. Il y a la rigueur méthodologique, puis il y a aussi l'objet d'étude à un moment donné qui peut être, qui n'est pas scientifique parce que ce n'est pas quelque chose qu'on
c'est
peut.
Ça, c'est une croyance.
Oui, c'est croyance. Ça. Voilà, c'est une croyance. Eh bien, merci beaucoup. Là-dessus, on va se faire plaisir. On va écouter une pièce musicale avant de se quitter. On écoute « She Blinded Me With Science » de Thomas Dolby. C'était « She Blinded Me With Science » de Thomas Dolby. C'est ainsi que se termine l'émission de ce soir. C'était la dernière émission de la saison. Je tiens à remercier David pour son accueil à la librairie Saint-Jean-Baptiste tous les premiers lundis du mois et pour ses si pertinentes citations qu'il choisit dans les livres qui se trouvent à la librairie. Merci à Gab Paquette pour la composition de la musique thème de l'émission. Merci à mes invités de ce soir, Martin et Simon. Et je remercie aussi en passant tous ceux qui ont participé à l'émission durant la saison. On souhaite tous les revoir à l'automne. Un gros merci à Anaëlle, à la mise en onde, qui a été fidèle à son poste toute la saison. Et finalement, le dernier, mais non le moindre, merci à Big Nick, sans qui rien ne serait possible, car c'est lui qui nous héberge sur son site web Radio Fiat Lux. Bon été tout le monde, on se retrouve en septembre.